Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme aujourd'hui derrière le micro en ce 27 mars, heureux de vous parler. Alors que ça commence à sentir les séries éliminatoires hein? Pour certaines équipes, reste moins de 10 matchs à jouer. La lutte est assez serrée, merci si vous regardez le classement. Donc on va avoir une course jusqu'à la fin. Super intéressant, vraiment. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on va parler un peu de tout ça sur le balado de LNH.com. Et cette fin de saison qui approche, ça nous mène à nous poser la question suivante. Qui mérite de gagner le trophée Hart? Le trophée qui est remis au joueur, je le rappelle, au joueur le plus utile à son équipe et non pas au joueur par excellence. Donc, ça modifie un peu notre façon de penser, notre manière d'évaluer tout ça. On va en débattre aujourd'hui à l'émission avec mes invités, Guillaume Lepage et Jean-François Chaumont. Aujourd'hui aussi à l'émission, on vient sur le voyage dans l'Ouest des Canadiens qui s'est soldé hier avec une belle victoire contre l'Avalanche du Colorado. On va parler des débuts, entre autres, de David Reinbacher du côté du Rocket de Laval. Et on vous donne des nouvelles de quelques espoirs de la LNH. Mais comme je vous disais, là, ça sent les séries éliminatoires et pas seulement dans la LNH. C'est aussi le cas dans la Ligue d'Hockey Junior Maritime Québec, alors que les séries éliminatoires commencent ce week-end. On va vous dresser un portrait un peu des choses qui vont être à surveiller dans les prochaines semaines durant les séries. Et on reçoit l'entraîneur du Drakkar de Bécomo, Jean-François Grégoire. On sait le Drakkar qui a connu toute une saison. Donc, on va en parler un peu comment il a connu cette saison-là. Il a, à bord de son équipe, quelques espoirs à surveiller. Mais avant de commencer, je vous invite, si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion de balado. Donc, je vous invite à nous écouter sur ces plateformes-là. Si vous êtes en déplacement, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous, comme ça vous êtes certain de ne jamais manquer le moindre balado, le moindre épisode. Alors, on lance l'émission, mes deux invités aujourd'hui, Guillaume Lepage. Salut Guillaume.
Salut Nick.
Et Jean-François Chaumont. Salut, JF.
Bon matin, messieurs.
Les gars, on va commencer l'émission à parler un peu de ce qui s'est passé chez les Canadiens de Montréal. On en parlait hier un peu lorsqu'on faisait la planification du balado. On disait « voyage pas facile pour le tricolore ». Et là, on nous sort une performance comme on a eu droit hier avec l'Avalanche contre l'Avalanche du Colorado. Belle victoire de 2-1. Tout ça alors que Martin Saint-Louis était aussi de retour derrière le banc après une absence de quelques matchs. Il en a parlé un peu, là, il a expliqué là, que son garçon Mason a été blessé lors d'un match de hockey mineur, là, aux États-Unis. Ouais. Et il est allé à son chevet, ça semble somme toute aller mieux là, dans le cas de Mason.
Oui, ouais, de bonnes nouvelles dans les circonstances. Là. Martin qui a choisi de rentrer à la maison pour retrouver sa première passion. Comme il disait, sa famille. Puis honnêtement, c'est impossible de contester la décision de Martin Saint-Louis. C'est vrai que dans une situation pareille, la famille doit passer en premier. Mais hier, pour le Canadien, le retour de Martin Saint-Louis, on sent que c'était le retour du meneur, du forme de capitaine de l'équipe sans avoir de C sur son veston. Mais les joueurs voulaient gagner ce match pour Martin Saint-Louis. Grosse victoire, 2-1 contre l'Avalanche du Colorado. Honnêtement, il y a très peu de chrétiens qui auraient parié sur une victoire du CH à Denver. C'est de l'aveu de Martin Saint-Louis, un des meilleurs matchs, sinon le meilleur match des Canadiens cette saison. Puis c'est quand même agréable de voir qu'en fin de saison, on va se rallier à certaines causes, que l'équipe continue de pousser, même si les séries éliminatoires... C'est impossible, mais le Canadien a offert de bonnes performances dans l'Ouest. Défaite à Calgary, le match le plus cinglant, c'est contre les Flames dès le début. Mais honnêtement, un premier match dans l'Ouest, c'est toujours difficile. Le Canadien avait joué un mardi à Montréal. Le jeudi, on jouait du côté de Calgary.
Contre Boston.
Toute l'histoire
en plus,
de Martin Saint-Louis aussi, qui était venu ébranler l'équipe. Mais quand même, de performances, somme toute, très honnête de la part des Canadiens pour ce long périple de 5 matchs.
Et je regardais le match hier, puis j'ai trouvé vraiment au niveau structure défensive, c'est pas une équipe facile à arrêter, bien évidemment, l'Avalanche. Et depuis la date limite des transactions, somme toute, tu as parlé du match contre les Flames qui a été difficile, défaite de 5-2. Contre les Canucks aussi, ça avait été plus difficile 4-1. Mais pour le reste, les Canadiens jouent du travail, sont très hermétiques défensivement. Je regardais un petit peu les statistiques depuis la date limite des transactions. Depuis le temps où on fonctionne à deux gardiens, les Canadiens sont sixièmes dans la Ligue pour la moyenne de buts accordés par match. Je ne sais pas s'il y a eu un déclic, s'il y a quelque chose qui s'est passé, mais défensivement, puis on l'a vu hier, c'est vraiment une équipe qui est meilleure qu'elle a été dans la majorité de l'année.
Oui, absolument. Moi, j'ai trouvé hier qu'il faut quand même lever notre chapeau à Samuel Montembeault, là, qui a
Oui.
réussi de très gros arrêts, là. C'est toujours quand ton gardien est solide comme Samuel l'est depuis en fait le début de la saison, ben ça aide toujours. Puis là, c'est vrai que devant lui, ça va mieux, là. La couverture est un peu plus efficace, disons. Puis comme tu disais, l'Avalanche du Colorado, là, c'est. Regardez ça hier, puis l'expression qu'on avait utilisée là, d'attaque circus offense, là, ou l'attaque un peu circassienne, là, ou je ne sais pas comment.
C'est avec les Blue Jackets de Columbus.
Oui, exact. C'était pas le bon mot, hein, Nick? Mais
non, c'est pas un beau mot. C'est pas un beau mot.
C'est
peut-être
le
bon mot,
okay.
Mais c'est pas très bas. C'est pas.
Non, mais pour vrai, ça tournait dans tous les sens.
Ouais.
Quand le gros trio est sur la patinoire, c'est très difficile à contenir parce que, je veux dire, au niveau de la prévisibilité, un mot que Martin Saint-Louis aime beaucoup utiliser, c'est presque impossible là, de prévoir ce que l'adversaire a en tête parce que ça tourne de tous les bords, tous les côtés. Mais le Canadien fait un travail très, très honnête. On a mis les bâtons dans les lignes de passe. Surtout en fin de match, là, j'ai des séquences qui me reviennent de la fin de rencontre quand ça tournait, ça viraillait dans la zone. On est en mesure justement de mettre le bâton sur la rondelle au bon moment, puis de réussir à garder cette mince avance-là d'un but.
Gagner aussi les mises en jeu. J'allais dire gagner les mises en jeu importantes aussi en fin de match, Jake Evans là, dans le sac deux fois.
Ouais, mais Jake Evans, c'en est un qui passe souvent dans l'ombre, mais pour des missions défensives, Evans, pour le CH, vaut son pesant d'or. Même chose pour Joël Armia. Joël Armia a eu un début de saison catastrophique. Mais depuis les deux derniers mois, ou même peut-être les trois derniers mois, il donne du très, très bon hockey. Défensivement, Armia, Guillaume parlait de couper des passes. Armia sait utiliser son grand bâton, sait bien se positionner en territoire défensif. C'est un joueur intelligent. Mais il faut quand même aussi offrir un gros coup de chapeau à Nick Suzuki. Chaque fois que le défi est grand, chaque fois qu'on lui flanque dans les pattes un Connor McDavid, un Nathan MacKinnon, les gros canons de la Ligue nationale de hockey, Suzuki a tendance à sortir ses meilleurs matchs. Puis il disait aux collègues qui ont fait le voyage, je crois que c'est avec Luc Gilina qui en parlait, Suzuki rêverait un poste au sein de l'équipe canadienne pour les Jeux olympiques de 2026 en Italie. Ça peut peut-être paraître loufoque quand on regarde la formation canadienne, mais si tu cherches un quatrième centre responsable, intelligent, bon offensivement, mais aussi très bon défensivement, bon cercle des mises en jeu, Suzuki peut rapidement devenir un candidat intriguant. Puis il le démontre en passant de gros tests comme qu'il vient de faire contre MacKinnon, contre McDavid dans ce voyage.
C'est quand même intéressant parce qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait souvent de Nick Suzuki. C'est la fameuse comparaison avec Patrice Bergeron là, que tous les joueurs de centre ramènent année après année. Tu parles à tous les centres du repêchage, ils veulent être aussi responsables que Patrice Bergeron. Mais je veux dire, de le dire, c'est une chose, de le faire, c'en est une autre. Puis avec Suzuki, on avait avancé ça là, dans les premières années de sa carrière. Puis finalement, ben plus ça va, plus on se dit bien, ça pourrait ressembler à ça dans son quand il va atteindre là, le sommet de sa courbe de progression.
Son plein
je pense
potentiel.
Que ça peut être exact. Son plein potentiel, ça peut être très, très intéressant pour le Canadien. Puis pour la formation de 2026, il reste encore beaucoup de temps, mais c'est quand même intéressant. Je pense qu'il place bien ses pions pour le moment.
Et ça me surprend toujours à quel point on parle de Suzuki, mais même contre les grosses équipes, on dirait que les Canadiens se présentent tellement plus que contre des équipes moyennes ou même de bas de classement. Je pense que pour le reste de la saison, on va avoir Montréal en tête la défaite contre les Sharks de San Jose qui venait d'en perdre, je pense, 42 de suite ou à peu près là, lors d'un match à Montréal. Mais ça a été encore le cas hier contre l'Avalanche, ça a été le cas contre les Bruins il y a deux semaines, ça a été le cas à quelques reprises. Durant ce voyage-là, la défaite crève-cœur à Edmonton, entre autres, de 3-2 en prolongation, où on s'est présenté. À défaut d'aller chercher des victoires, il y a des gains au niveau caractère qui se font dans cette formation-là présentement.
Oui, puis le tricolore est rarement déclassé cette année, mais si on vire la médaille à l'envers, est-ce que les grosses équipes ont moins de motivation quand ils croisent le CH en fin de saison? C'est une possibilité, mais hier, l'Avalanche a patiné jusqu'à la dernière minute. C'était pas une équipe qui était en lendemain de brosse et qui n'avait pas envie de jouer un match de hockey. L'Avalanche poussait pour aller chercher ce match-là. Les Canadiens ont connu une bonne réponse, mais c'est une équipe qui, à l'image de Martin Saint-Louis, c'est une équipe qui travaille. Martin Saint-Louis, comme entraîneur, C'en est un qui arrive très, très tôt, consacre énormément de temps à son équipe, enseigne aussi de façon individuelle. Puis tu sens que le Canadien est bien guidé. On parlait de Nick Suzuki tantôt, mais moi, j'aime aussi voir un Slafkovský qui obtient des présences en fin de match pour protéger une avance. Puis Slafkovský, lui, il se tourne puis il regarde son capitaine qui se donne corps et âme pour cette formation-là. Puis il veut y aller des mêmes efforts. Puis défensivement, il veut se sacrifier autant qu'il peut vouloir pousser offensivement. Puis ça, pour la culture, pour reprendre le mot cher à Martin Saint-Louis, mais c'est des bonbons pour le long terme.
Parlons-en de Slafkovský, justement, ça va très bien pour lui, autant justement défensivement, comme tu viens de dire, où il a plus en plus de responsabilités, mais offensivement, là, depuis le 1er janvier, 35 matchs, 27 points en 35 matchs, 11 buts, là, il est sur une séquence de 8 parties consécutives avec au moins un point. On voyait des flashs en première moitié de saison, où on se disait « il va être bon, il commence à être de plus en plus à l'aise dans son corps ». La production offensive n'était pas là, les résultats n'étaient pas là au niveau de la feuille du marqueur, mais au niveau des habitudes, des bonnes habitudes à prendre, c'était en train de se placer lentement, mais sûrement. Et là, on récolte les fruits là, du côté de Slafkovský.
Je me suis passé la réflexion hier pendant le match, une séquence en zone offensive, Slafkovský était sur le long de la rampe, il a gagné une, deux, trois batailles pour reprendre la rondelle à chaque fois. Puis ça, c'est des séquences qu'en première moitié de saison, là, c'était plus difficile. Slafkovský perdait ses batailles plus souvent qu'autrement. Il était moins solide sur ses patins. Il avait moins confiance en son jeu. Puis là, c'est un joueur, tu sais, si on compare vraiment à la première moitié de saison, c'est un joueur qui est complètement transformé. J'irais même jusqu'à dire que pour moi, en ce moment, son impact sur le premier trio est peut-être plus important que celui de Cole Caulfield, qui semble un peu chercher, puis qui a des chances, mais on dirait que les buts ne viennent pas. Du côté de Slafkovský, la confiance est là, puis justement, ça vient de ce que les entraîneurs lui confient comme mission et tout ça. Je vois que du positif du côté du gros Slovaque. Là. C'est quand même assez impressionnant la tournure qu'a pris sa saison.
Oui, puis tu sais, tu regardes aussi, tu parlais de Cole Caulfield. Perdu, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on dirait qu'il essaie d'ajouter des cordes à son arc, mais qu'il n'est pas nécessairement à l'aise là-dessus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il a l'air un peu pas certain de quoi il doit faire sur la glace, je trouve, parfois, où c'est pas les mêmes habitudes de travail de Caulfield. Est-ce qu'on l'a approché pour justement cette année? Est-ce que c'est revenu dans la conversation où on lui demande de changer son approche, autant l'approche de tir, mais approche complète du jeu pour peut-être être moins sur le radar des autres équipes qui savaient très bien par le passé où il allait tirer?
Bon, on lui a posé la question à quelques reprises cette année si ça pouvait le chatouiller, sa production de buts. Caulfield, on s'attendait à cette période de l'année à le voir avec déjà 30 buts en poche, peut-être même frôler les 40 buts. Il est à 20. Juraj Slafkovský a 5 buts de moins que Cole Caulfield. 15 pour Slafkovský, 20 pour Caulfield. Honnêtement, ce n'est pas un scénario qu'on pouvait entrevoir en début de saison. Il y a probablement beaucoup de choses en tête dans le cas de Caulfield, sans dire qu'on veut transformer son jeu. Martin Saint-Louis, Letarski, Burroughs se sont donné comme mission d'en faire un ailier plus complet. Qu'il soit meilleur défensivement, qu'il soit capable de récupérer des rondelles. S'il y a un aspect positif, sa vision du jeu, je trouve, Caulfield réussit à trouver Suzuki, réussit à trouver Slafkovský. Il a quand même 35 passes cette année, 55 points. Va finir la saison autour de 60-65 points. On parle quand même d'une saison intéressante, mais on aurait cru le contraire. On aurait pensé à peut-être 35 buts, 20 passes, pas 20 buts, 35 passes. Là, c'est peut-être un placement pour du long terme, mais il y a plusieurs fois qu'on sent Caulfield un petit peu agacé et impatient. Souvent, je trouve qu'il va de tir où il n'y a absolument pas d'angle, mais il veut en obtenir un but. Il veut se relancer. Mentalement, pour lui, ça doit être difficile parce que toute sa vie, il en a marqué des buts. Là, cette année, il frappe un petit peu un mur pour la production de buts, mais au moins, son nom reste sur la feuille de pointage régulièrement. Donc, il faut quand même faut prendre un pas de recul. Il ne faut pas paniquer non plus avec Caulfield. Je suis convaincu que c'est un marqueur de 30-40 buts dans la Ligue nationale. Cette année, c'est peut-être une saison où on lui demande d'autres missions que de uniquement marquer des buts.
Je regardais hier la diffusion du match du côté de RDS, puis on a sorti une statistique. Il y a 35 passes, le Caulfield, cette année. C'est son plus grand total de passes en carrière, peu importe le niveau.
le niveau.
On ne joue pas autant de matchs dans la NCAA, dans les circuits mineurs, mais quand même, son plus gros total, c'était à l'école secondaire au Wisconsin, c'était 33 passes. Puis là, soudainement, on a 35 cette année. C'est un discours qui est différent, mais j'aime comment tu amènes ça, que c'est un placement. Là, ce qu'on voit cette année de son côté, c'est un placement. Puis, ben, en même temps, tu as Slavkovski pour qui, là, il a rejoint le Bleuet. Il a dépassé même le Bleuet comme le joueur de moins de 20 ans avec le plus de points dans l'histoire des Canadiens. Et oublions pas, Slavkovski, l'année dernière, a quand même manqué la majorité de la saison quand il repense. On est peut-être en train de voir ce que Slavkovski aurait été cette année s'il avait pu jouer un 70-80 matchs l'année dernière. T'sais, prendre ces habitudes-là, ces bonnes habitudes-là. Donc, c'est intéressant. L'autre chose qui va bien, la tenue des gardiens. On se demandait ce que ça allait donner lorsqu'on allait tomber avec deux gardiens à la suite du départ de Jake Allen. Hier, bonne performance de Samuel Montembeault. Caden Primeau a très bien fait aussi dans la victoire contre le Kraken. Dans leurs deux cas, ça va être une question de gagner, de jouer sur une base plus quotidienne qui va être le défi, mais en même temps, on le faisait déjà un peu à pas. Tu sais, quand Allen était là, on n'avait pas des départs réguliers. C'est pas des, ils n'auront pas une charge de travail digne de numéro un d'ici à la fin de la saison, aucun des deux. Donc, on est déjà dans des bonnes répétitions, là, si je pourrais dire, dans leur cas.
Ouais, puis je pense que pour eux, c'est peut-être plus facile de voir plus de matchs rapidement que l'inverse. Là. Si on se met dans la peau de Caden Primeau qui devait se contenter d'entraînement. La majorité du temps, je pense que lui est très heureux. Puis pour l'instant, il saisit sa chance. Là, on lui a fait confiance en échangeant Jake Allen. On lui a dit, ben regarde, c'est toi le deuxième gardien, du moins jusqu'à la fin de la saison, puis probablement pour la saison prochaine. Puis il envoie de très bons signaux à la direction. Là, pour l'instant, vraiment rien à dire du côté de Caden Primeau. Il est solide devant son filet, puis il a l'air aussi solide mentalement, ce qui... Peut-être par le passé, on le voyait peut-être plus s'effondrer dans certaines situations difficiles. Là, il a vraiment l'air d'un gardien en confiance, puis ça fait toute la différence dans son cas.
Oui, puis si ça va bien. Vas-y, Jeff.
Je m'attends d'ici à la fin de la saison. Là, le Canadien, il n'y a pas d'enjeu pour le classement. On ne souhaite pas absolument remonter au classement. Pour moi, la logique, on va partager le travail. Il reste une dizaine de matchs. Montembeault risque d'avoir 6 départs, Caden Primeau 5, avec 5-6 départs, Montembeault finit la saison avec 40-41. On se rapproche d'un chiffre respectable pour un numéro 1. Primeau, lui, va cogner à la porte d'une vingtaine de matchs, donc on sauve une saison où Primeau n'a pas eu assez d'action. Mais c'est vrai que le jeu offert par les deux gardiens dans le récent voyage, c'est encourageant, puis même Montembeault, cette année, on peut compter sur les doigts d'une main les mauvais départs. Il y a eu un 9-4 à Boston. Il y a eu un 7 buts ou 6 buts contre les Rangers au Madison Square Garden. Mais c'est très rare que Montembeault connaisse un mauvais match. Il a démontré cette année qu'il a la constance pour répéter. On va voir s'il peut maintenant le faire sur une fréquence de 50 à 60 matchs. Mais pour moi, Montembeault est maintenant de calibre pour être un bon gardien dans la Ligue nationale de hockey.
J'ai une statistique là-dessus, ce qu'on appelle le pourcentage de départ de qualité. C'est-à-dire lorsque ton pourcentage d'arrêt est supérieur à la moyenne de la Ligue nationale de hockey dans le match que tu joues, Montembeault, tu parlais de régularité, il est premier dans la Ligue ce chapitre, avec 70,6% de ses départs qui sont des départs de qualité dans une équipe de bas de classement comme les Canadiens qui a parfois accordé trop de buts. C'est particulièrement positif. Là, on l'a dit, le prochain défi, ça va être la charge de travail. Est-ce qu'il peut faire ça sur 50 matchs au lieu de 35 matchs comme présentement? Ce sera une autre question. Mais vraiment, là, Montembeault, c'est une progression. Hein? Parce que lui, quand il est arrivé à Montréal, on se souviendra, balotage, il était à reconstruire Montembeault. Et là, vraiment, là, on commence à voir le gardien qu'on voyait lorsqu'il était avec l'Armada de Blainville-Boisbriand là, dans les rangs juniors. En terminant cette portion canadienne, Joshua Roy, saison terminée, a été opéré. Dommage parce qu'on aurait aimé ça le voir continuer à gagner de l'expérience, mais en même temps, dommage pour le Rocket peut-être parce que c'est peut-être là qu'il aurait terminé la saison. On évalue ce qu'on a vu de Joshua Roy quoi là, présentement. Quand vous regardez ce qu'il a été en mesure d'offrir cette année avec le CH, est-ce que sa place est assurée pour l'année prochaine?
Ben, place assurée, j'aime pas le mot assurée, mais disons qu'au prochain camp, il y a plus une place à perdre qui a gagné. Si Joshua Roy, un camp d'entraînement décent, devrait faire partie du top 9, possible pour lui, si jamais le Rocket participe aux séries et qu'on a un long bout de chemin, Roy pourrait peut-être revenir. Là, on parle d'une absence d'un mois et plus dans son cas. Mais pour moi, c'est une saison très, très, très positive. Joshua Roy, il ne faut pas l'oublier, seulement 20 ans. Il y en a pour qui on a longtemps dit qu'il était jeune à 18, 19, 20, mais Roy a le droit d'être jeune, lui aussi, à 20 ans. Puis, dès ses débuts avec le Rocket, a réussi à noircir la feuille de pointage. Il y a eu un impact offensif en arrivant. Puis avec les Canadiens, c'est bien débrouillé offensivement, mais combien de fois Martin Saint-Louis a pu répéter qu'il aimait aussi son jeu défensif et son intelligence? Roy, pour reprendre l'expression chère à Martin Saint-Louis, c'est un joueur de hockey. Donc, je suis pas inquiet pour son futur avec le CH.
Puis j'ai bien aimé aussi, pour ajouter à ça, la gestion du Canadien par rapport à Roy, parce que si on recule au début de la saison, après les 10 premiers matchs, tout le monde voulait voir Joshua Roy à Montréal, puis on disait qu'il était prêt, puis qu'il pourrait avoir un impact dans la Ligue nationale et tout ça. Puis le Canadien l'a gardé à Laval, l'a laissé prendre de l'expérience. Puis il a connu aussi, il ne faut pas l'oublier, là, au mois de novembre-décembre, il a connu des passages un peu plus avides dans la Ligue américaine. Je lui avais parlé, il me disait que au niveau fatigue et au niveau de la charge de travail, c'était difficile pour lui parce qu'il me disait, dans le junior, je pouvais avoir des matchs à 80-75%, je ramassais mon but puis ma passe, puis on gagnait. Dans la Ligue américaine, il faut que tu sois à 100% à tous les matchs, tu joues des 3-3, des 2-3, tes semaines sont occupées, sont chargées. Fait qu'au début, il y avait de l'adaptation aussi à ce niveau-là. Il a appris à gérer ça. Puis quand il est arrivé dans la Ligue nationale, quand le Canadien a décidé que oui, c'était le temps de l'amener avec le grand club, bien, il était prêt à gérer tout ça. Fait que j'ai bien aimé justement la patience. On répète souvent ça. Là. Mais le Canadien a usé de patience dans son cas. Puis je pense que ça a été très positif.
Canadien, bon, début d'une séquence de 5 matchs à domicile. En fait, on revient à la maison. C'est plaisant pour les partisans, mais c'est pas des petites pointures qui s'amènent à Montréal. Les Flyers, les Hurricanes, les Panthers, le Lightning, Maple Leafs, 5 équipes qui sont actuellement en séries éliminatoires. Ça commençait aujourd'hui. Guillaume, les gens vont pouvoir lire tes textes là-dessus. Tu vas couvrir tous ces matchs-là. Mais l'objectif, on disait, c'est pas vrai, là, mais c'est pas de gagner des matchs là, d'ici à la fin de la saison. Mais est-ce qu'on s'attend à ce que ces équipes-là arrivent à Montréal avec le couteau dans les dents ou justement peut-être un petit repos? Comme tu parlais de JF?
Non, moi, je dirais le couteau entre les dents. Là, ouais. Si tu dois commencer, une équipe comme les Flyers de Philadelphie, pleine course pour les séries, les Maple Leafs, le Lightning, les Panthers, on arrive le mois d'avril, veulent se positionner, offrir du bon hockey. Les Maple Leafs, c'est une équipe pour qui c'est en dents de scie dernièrement. Il n'y aura pas de cadeau de la part du Canadien. Le classique, c'est quand tu reviens d'un long voyage, la première rencontre à domicile, historiquement, là, l'affiche va souvent être perdante, mais j'ai hâte aussi de voir la réaction de la foule. Ça risque d'être un match émotif. On va saluer le retour de Martin Saint-Louis. Les partisans vont lui offrir une dose d'amour. Donc, de petits éléments qui peuvent amener une motivation supplémentaire pour le CH.
Ouais, puis tu disais des équipes qui sont dans la course aux séries. Tu regardes Toronto. Le Lightning commence à souffler dans le coup des Maple Leafs. Là. Fait que, tu sais, je vois, honnêtement, avec le classement aussi serré que ça, je vois pas comment une équipe peut lever le pied parce qu'on sait que deux petits points peuvent faire la différence au classement, puis permettre à une équipe là, d'avoir un affrontement un petit peu plus, disons, facile, entre guillemets, au premier tour.
C'est de moins en moins vrai. Là,
je le mets beaucoup, entre guillemets, là, mais. Non, tu sais, chaque point est important, puis ces équipes-là vont arriver avec le couteau entre les dents.
Oui, puis les Flyers, d'ailleurs, c'est l'équipe qui a le plus de matchs disputés, qui est présentement dans la course aux séries éliminatoires. Tu peux pas perdre de temps avec eux autres parce que ça se pourrait très bien que si tu perds la troisième place dans la section métropolitaine, tu manques les séries éliminatoires tout simplement parce que les Red Wings de Détroit sont pas très loin aux trousses des Capitals de Washington. Donc, il n'y a pas de match. J'ai hâte de voir ce que la troupe de John Tortorella, il y a quand même eu des remous dernièrement là, à Philadelphie. Donc, je suis curieux de voir ce qu'on va... Si tout le monde va arriver avec avec une bonne attitude et beaucoup de bonheur chez les Flyers à Montréal.
Ouais. As-tu une idée de question que je pourrais poser à Tortorella demain là, par rapport à la chambre couturier?
Tout dépendant. Veux-tu te retrouver partout sur les réseaux sociaux ou veux-tu garder ça low profile?
C'est toujours ça le danger avec Torts. Je veux pas me retrouver sur Instagram partout, là, sur le compte de Bar Down ou quelque chose comme ça.
À vrai dire, là, vous êtes en train de tirer à la courte paille qui va poser la fameuse question sur Couturier à John Tortorella demain, c'est ça?
Ça devient un exercice de diplomatie. C'est comment tu formules ta question pour pas que Tortorella morde et qu'il te lance le regard de feu. Mais il y a toujours moyen de trouver une façon de poser la question. Mais souvent, Tortorella, dans un marché comme Montréal, il en donne aussi. Il sait qu'il y a une tribune. Je ne suis pas convaincu qu'il va faire le même cirque qu'il peut offrir du côté de Philadelphie, où il répond tout simplement pas à la question. J'ai hâte de voir. C'est difficile de prédire comment Torts peut réagir.
Mais en même temps, ces joueurs le savent. Je ne vais pas dire les crises, je viens de le dire, là, mais les réponses acerbes parfois de John Tortorella, très souvent par contre, pas toujours, mais très souvent, sont pour défendre ces joueurs. Ouais. Je ne sais pas à quel point les joueurs le savent.
C'est les sautes d'humeur devant les caméras, devant les micros. Mais je me souviens d'une longue entrevue avec Daniel Brière à Philadelphie où Brière me vantait le côté humain de Tortorella et son approche avec joueurs. Qui prend le temps de parler, prend le temps de s'informer comment ils vont sur la glace, comment ils vont à la maison. Souvent, il y a de jeunes pères de famille, ils ont d'autres préoccupations. Tortorella s'est bâti un personnage au fil des années. Certains joueurs l'ont détesté. On peut penser à André Roy, qui a joué pour lui du côté du Lightning de Tampa Bay.
Ou les Canucks de Vancouver au complet.
Oui, exact. Les Canucks aussi, ça avait été difficile. Mais il y a une autre image aussi qu'on présente moins de John Tortorella.
Exactement. Donc, il y a deux John Tortorella. Les gars, je vous amène sur... on a parlé du Rocket tantôt. Bon, début de David Reinbacher. Là, bon, Reinbacher, les gens qui nous écoutent en Suisse, bon, là, il y a eu... comment on l'appelle en Amérique du Nord? Semble-t-il que lui a permis à tout le monde d'utiliser le terme Reinbacher parce que c'est plus à la nord-américaine. Donc, on va peut-être utiliser plus ceci sur le podcast. Mais je vous salue les gens en Suisse qui nous écoutent puis qui trouvent que...
C'est plus facile pour la gorge de notre
côté. Oui, exactement. Moi, ce qu'on m'avait expliqué, c'est le même principe que Michael Schumacher, qui, quand on écoute Pierre Hout, qui dit Schumacher. De là est la prononciation, mais bon, bien évidemment. Mais je salue tous nos amis en Suisse qui nous écoutent. Tout un départ pour Reinbacher, justement, à son premier match. Marque tout un but, termine son week-end. On se demandait s'il allait jouer 3 ou 2 matchs. Parce que c'est un rythme de jeu qui est vraiment différent de la Suisse cette année. A joué les 3 matchs, 1 but, 1 passe. J'imagine qu'on est quand même satisfait là, du côté du Rocket de ce qu'on a vu des débuts du défenseur, sans vouloir s'emporter.
Non, mais c'est un bilan. L'échantillon reste très petit, mais pour lui, c'était quand même, on le lance dans la fosse au Lyon, 3 matchs en 3 soirs, dans une course aux séries, contre des rivaux qui sont impliqués dans la course aux séries, Belleville, Toronto, les équipes écoles des Sénateurs d'Ottawa et des Maple Leafs de Toronto. Puis Reinbacher a répondu présent. Moi, je sens... Depuis son arrivée avec le Rocket, c'est un jeune homme qui avait hâte de vivre un nouveau départ. C'était une saison difficile à Kloten. Tantôt, Guillaume a parlé d'un cirque là, pour l'attaque des Blue Jackets ou de l'Avalanche, mais Kloten, c'est un cirque pour la rotation des entraîneurs. 3 entraîneurs différents derrière le banc cette saison. Une équipe qui perdait quantité de matchs. Puis quand on lui demande sur quoi tu as le plus travaillé, où tu t'es le plus amélioré cette saison en Suisse, Reinbacher, le sourire aux lèvres, puis il disait « mon jeu défensif ». Mais sa réponse, parce qu'il était toujours coincé dans son territoire défensif à Kloten, on le sent qu'il respire un petit peu mieux. Il y avait peut-être beaucoup de choses à prouver en peu de temps. Je crois pas qu'on va avoir d'attente au niveau des buts, des passes immédiatement avec Reinbacher, mais de le voir suivre le rip, de s'installer, de trouver ses repères, pour lui, c'est bon pour le prochain camp d'entraînement. Il n'y aura pas de course non plus avec David Reinbacher. Il y a plusieurs jeunes défenseurs chez le Canadien. Guillaume, tantôt, parlait de prôner la patience. C'est possible aussi qu'on prône la patience puis que l'an prochain, on lui dise « Écoute, Va faire tes classes dans la Ligue américaine, va apprendre le jeu en Amérique du Nord, essaie de dominer dans un circuit, jouer 23-24 minutes par match. Il n'y aurait rien de mal non plus à le voir connaître une saison complète. L'an prochain, il va avoir seulement 20 ans. Donc, c'est pas une course avec David Reinbacher. 19-20 ans l'an prochain.
On l'a vu récemment avec des Nemets au New Jersey, des David Jiříček à Columbus. Les défenseurs européens qui arrivent ici, c'est pas toujours facile. Là. C'est un style de jeu qui est complètement différent. Puis, comme Jean-François le disait, il n'y a rien de mal à prendre son temps parce que là, c'est un cinquième show au total. Faudrait le faire jouer rapidement dans la Ligue nationale. Je pense qu'il n'y a rien qui presse du côté du Canadien. Puis, qu'il fasse ses classes à Laval. D'ailleurs, il va avoir son baptême à Laval cette fin de semaine. Je voyais que les billets se font très rares là, pour ces matchs-là. Fait qu'il va avoir un petit avant-goût là, de pour reprendre le mot populaire de ce podcast, le cirque montréalais, mais ça va être le cirque lavallois pour cette fin de semaine.
Mais c'est fou à quel point ça marche le Rocket, alors que pendant toutes ces années-là, on n'a pas eu autour de Montréal un aréna de plus de 5000 places ou un aréna de plus de 4000 qui n'avait pas été bâti avant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale plutôt. T'sais, quand on pense à ça, là, quel coup de maître de la part du groupe Molson puis tout ça, d'avoir construit cette aréna-là pour ajouter non seulement à ça un spectacle, plusieurs spectacles, ça fonctionne très bien. Autre chose qui fonctionne très bien, Logan Mailloux, je fais un pont très douteux, vers un autre défenseur de l'organisation. JF, tu as parlé dernièrement à Logan Mailloux. Ça va très bien au niveau statistique, tout ça, mais au niveau de son jeu complet, il cogne à la porte. Logan Mailloux, c'est une question de temps. Est-ce que tu penses qu'on va le voir dans la LNH cette année? Peut-être un petit avant-goût, un petit match ici et là? Ou...
Moi, je serais surpris. Il est probablement coincé par rapport au fait que le Rocket se bat pour confirmer sa place en série. Ça, si le Rocket avait déjà un astérix disant « Oui, on participe aux séries éliminatoires », possiblement qu'on lui offrirait une petite audition. Mais encore là, il n'y a rien de mal à ça. Logan Mailloux me disait qu'il a connu des hauts et des bas comme n'importe quel recrue. Dernièrement, il joue du très bon hockey. C'est quand même 42 points pour Mailloux, 14 buts si ma mémoire est bonne. Domine les défenseurs recrues du côté de la Ligue américaine. Puis Guillaume, tantôt, parlait de Joshua Roy, le Canadien qui a été patient. On ne lui a pas donné un rappel immédiat. Mais il n'y a rien de mal non plus avec Logan Mailloux. Il apprend sous la tutelle de Jean-François Hull. Hull nous disait d'ailleurs que la plus grande amélioration du côté de Logan Mailloux, à ses débuts, sans dire qu'il y avait des problèmes de discipline ou quoi que ce soit, il a eu besoin d'apprendre c'est quoi la vie d'un professionnel. Amener plus de sérieux à l'extérieur de la glace, plus de sérieux, être plus investi dans les séances vidéo, etc. On a beaucoup travaillé avec Mailloux. Le CH en récolte maintenant les fruits. C'est un défenseur de l'aveu de Jean-François Hull. Il va drôlement cogner à la porte de l'équipe au prochain camp. S'il connaît un bon camp, c'est loin d'être impossible pour lui de le voir se faufiler parmi le top 6 de défenseurs des Canadiens au prochain camp d'entraînement.
Les gars, présentement, la course aux séries, Guillaume, tu sais-tu exactement, j'ai un blanc, là. C'est les quatre premiers de la division Nord qui font les
5 premiers.
Les cinq premiers. Donc, ce matin, là, en se réveillant ce mercredi, techniquement, le Rocket est en séries éliminatoires, mais on a plus de matchs à disputer. Puis on a Belleville qui suit pas très loin avec 2 points de retard, mais un match en main. Donc, on est vraiment... Ça serait plaisant parce que sinon, pas de hockey de séries éliminatoires à Montréal ou dans la grande région de Montréal, ce serait... Mais pas dans l'Armada est en séries éliminatoires. Donc, on demeure dans la grande région de Montréal à ce moment-là. Là, mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, ils iront voir le CF Montréal. Que veux-tu? Ce sera l'autre option si on veut voir du sport professionnel dans le coin. Ah, il y a la LPHF aussi. Les gens vont pouvoir aller voir la LPHF aussi, dont la saison se poursuit. On change d'organisation. JF, tu es allé discuter avec Maverick Book, meneur de la Ligue américaine présentement au niveau du classement des compteurs. Lui doit commencer à avoir hâte à être rappelé, mais il n'y a pas vraiment d'option de rappel. Il n'y a pas eu beaucoup de blessés chez les Stars cette année. T'as-tu senti quand tu as parlé qu'il a hâte justement puis que c'est son tour? Je pense que lui-même l'a dit publiquement, là, c'est son tour d'être rappelé, là, c'est son tour d'aller jouer en haut.
Ben, il tape du pied. pour reprendre une expression, là. Maverick Book, c'est 69 points en 62 matchs. Le deuxième meilleur marqueur du côté de la Ligue américaine là, en date de ce mercredi, c'est Grégory Merkulov des Bruins de Providence à 57. Le troisième, c'est Adam Gaudette à Springfield à 57 également. Donc, Bourque est seul au sommet des marqueurs. Se pose des questions des fois à savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour obtenir un rappel du côté des Stars de Dallas. Mais en même temps, il se dit que bon, il n'y a pas le choix pour l'instant de prôner la patience. Le jour où il va recevoir un rappel, il risque d'être prêt pour la Ligue nationale de hockey. Si on regarde la formation des Stars, il est possiblement coincé. Il y a Logan Stankoven qui a reçu qui a obtenu l'appel du grand club. Stankoven produit déjà du côté des Stars.
Ça se passe bien, oui.
C'est qui le DG aussi du côté des Stars de Dallas? C'est Jim Neal. Jim Neal provient de quelle organisation? Les Red Wings à Détroit. À l'époque, les Wings, les jeunes joueurs devaient se casser les dents pendant 2-3 saisons avec les Griffins de Grand Rapids avant qu'on ouvre les portes du vestiaire de la Ligue nationale. C'est un petit peu la même philosophie. Oui, il aimerait obtenir un rappel. Oui, il est possiblement déçu, mais Bourque a la chance de produire un rythme élevé. Puis c'est ce qu'on disait tantôt avec Joshua Roy et Logan Mailloux. Il n'y a rien de mal de voir un jeune dominer un circuit. La journée où on va lui dire « OK, go », c'est possiblement à l'automne prochain. Je ne suis pas convaincu que les Stars vont pouvoir s'offrir un Matt Duchene la saison prochaine. Donc, ça pourrait ouvrir une porte à Maverick Bourque à un petit salaire. Donc, Bourque, c'est une question de temps avant de le voir dans l'uniforme des Stars de Dallas.
Je me souviens, je lui avais parlé en début de saison, je pense après les 15-20 premiers matchs, puis déjà là, il me disait « je suis rendu là, je suis rendu à avoir mon rappel » puis tout ça. Fait que je peux comprendre que quelques mois plus tard, il y a peut-être aussi un petit sentiment, je sais pas, d'injustice par rapport à Logan Stankoven, qui lui avait seulement disputé une quarantaine de matchs avant d'obtenir son rappel, puis finalement s'établir dans la Ligue nationale. T'sais, si je suis dans la peau de Bourque, je me dis ben les deux ont produit au même rythme dans la Ligue américaine. Ce serait peut-être moi qui serais en train de produire comme ça dans la Ligue nationale. Fait qu'il y a peut-être aussi un petit peu de frustration de ce côté-là, mais que voulez-vous?
Mais Guillaume, tu le connais bien, Maverick. Quand je lui ai posé la question sur Logan Stankoven, il dit sans détour « Oui, je suis heureux pour Stankoven parce que c'est un bon ami, mais lui, il a 40 matchs derrière la cravate dans la Ligue américaine. Moi, j'en ai 130. » Puis il avait le calcul pile-poil, pas d'erreur, mais c'est un jeune homme qui est intelligent puis il a compris aussi, quand on lui pose la question « Où tu dois t'améliorer afin de devenir un joueur de la Ligue nationale? » Puis la première réponse, c'est pas d'obtenir plus de buts, d'obtenir plus de passes, c'est « Je dois être meilleur au cercle des mises en jeu. » Il sait qu'il va probablement avoir un rôle plus de troisième centre ou quatrième centre à ses débuts, possiblement l'an prochain à Dallas. Donc, il en profite pour travailler sur les détails du jeu qui vont faire de lui un meilleur hockeyeur dans quelques temps.
Est-ce qu'on pourrait l'utiliser à gauche, peut-être, à l'aile, devrais-je dire?
Pour l'instant, il dit qu'il a joué 99% des matchs dans la Ligue américaine au centre. C'est un joueur de centre. Il se voit comme un centre. Il y a Rupe Hintz aussi à Dallas. Ils ont de bons centres. Mais il va peut-être avoir la chance la journée où il va.
T'as même pas nommé Wyatt Johnston, qui est un des meilleurs jeunes centres de la Ligue.
Ah oh, oui, mais la journée qui va faire son entrée, ben, il va jouer avec une équipe qui va aspirer à une conquête de la Coupe Stanley. Il disait, je regarde à gauche, à droite, je vois des jeunes qui jouent au niveau de la Ligue nationale. Ils sont probablement pas meilleurs que lui, mais ils ont la chance d'être dans une équipe où il y a des ouvertures. Mais pour lui, c'est une question de... On mange le pain noir pendant quelques temps, puis à un moment donné, bien, la porte va s'ouvrir.
J'ai pas vu les Stars c'est les Stars du Texas, là, question de mélanger tout le monde.
C'est
Stars
Austin de Dallas, au Stars Texas. Du Texas.
Bon, c'est ça. On en est où au niveau de la course? On est parmi les meneurs, hein, je pense, dans la Ligue américaine.
Ils sont sur... un petit peu comme le Rocket. Il n'y a rien de...
Ah oui, OK. Son quatrième de la section centrale. Donc, peut-être un parcours en séries éliminatoires, peut-être pas. Peut-être long parcours. Sinon, celui de Dallas pourrait être long en séries éliminatoires. Donc, peut-être un rappel enfin, là, dans son cas.
C'est une possibilité.
On se rappelle que l'année passée, dans les séries, les Stars avaient rappelé Maverick Bourque là, en finale de l'Ouest, je crois.
Ça se peut.
On avait cru. Okay. J'étais sur place. Je me souviens qu'on l'avait attendu pendant une heure après la pratique parce qu'on pensait qu'il allait jouer, mais finalement, on avait compris Il avait fait une heure d'extra, fait qu'on avait compris qu'il allait regarder le match du haut des gradins, mais quand même, pour lui, ça avait été une expérience de Black Aces.
Ouais, exactement. Un joueur qui ne jouera pas, par contre, dans les séries de la Ligue américaine ou dans les séries de la LHJMQ, c'est Tristan Luneau. Guillaume, tu as parlé, l'espoir des Ducks d'Anaheim, le défenseur, devrais-je dire, des Ducks d'Anaheim, parce que malheureusement pour lui, c'est là qu'il va avoir joué le plus de matchs cette année. Là. C'est-à-dire que sa saison a été assez écourtée parce qu'il a seulement joué quelques matchs avec les Ducks. Pas de championnat junior non plus parce qu'il a été victime d'une infection au niveau du genou. Il recommence à patiner, il recommence à revenir là, lentement mais sûrement à sa forme. Mais c'est une saison qui est extrêmement décevante, j'imagine, pour lui.
Ouais, c'est ça. J'ai pris de ses nouvelles parce que... On ne s'était pas parlé depuis le mois de décembre, quand il était au camp de sélection d'équipe Canada junior, puis qu'on pensait qu'il allait être le défenseur numéro un, probablement le capitaine de cette formation-là. Finalement, tu l'as dit, une infection au genou. C'est beaucoup de travail, là, en lui parlant. Là, pour vrai, ça a été 2 mois d'antibiotiques. Pendant qu'il prenait les antibiotiques, il ne pouvait pas rien faire de physique parce que son cartilage était affecté. Ça ramollit un peu le cartilage, puis il y a des dangers d'aggraver la blessure comme ça. Donc, pour lui, c'est sûr qu'il y a une déception, mais Tristan Luneau, tu sais, depuis ses années juniors, tu sais, il y a une force mentale, il y a une approche vraiment cartésienne, je dirais. Là, tu sais, pour lui, oui, mais il y a une déception,
C'est un joueur qui... Je me souviens, il prend des notes, un cahier de notes de c'est un joueur. C'est une bête à part, Tristan Luneau. Là.
C'est ça, il est vraiment dans sa tête. Il est très, très focus sur le but à accomplir. Fait que pour lui, il dit oui, il y a une déception, mais il dit c'est plus une question de tu sais, je m'ennuie de jouer au hockey, mais c'est ce qui est arrivé cette année, puis il ne peut rien y faire. Là. Il dit je peux pas contrôler ce qui m'est arrivé. Ce que je peux contrôler, c'est ma réadaptation et tout ça. Il dit il y a pire endroit sur Terre pour une réadaptation que la Californie. C'est sûr qu'il aurait aimé être de retour à Victoriaville. Les Tigres avaient fait son acquisition pour la fin de la saison et les séries.
Rien contre Victo, mais la Californie quand même juste
ben, GF dit qu'Anaheim, c'est pas le meilleur endroit en Californie, mais bon, disons que si on a à comparer. Je veux dire, le choix est quand même facile, mais pour Tristan Luneau, c'est ça. Il n'a pas encore commencé à patiner. Il lui restait, au moment de lui parler, restait 2 injections là, dans son genou. Puis après ça, il pouvait passer à la prochaine étape de sa réadaptation. Puis il n'y a pas d'inquiétude par rapport à son été d'entraînement. Il va être top shape là, pour reprendre l'entraînement puis arriver prêt au prochain camp. Là. Donc, ce sont les nouvelles dans le cas de Tristan Luneau. On va lui souhaiter que l'année prochaine puisse disputer plus que ses 13 matchs au total dans sa saison. Oui. 6 dans la Ligue américaine, 7 dans la Ligue nationale. Donc, au niveau du développement, ben, ça aurait pu être mieux.
Oui, puis il avait été victime d'une blessure au genou aussi, Luneau. Donc, des épreuves, là, il commence à son année de repêchage en plus. Donc, c'est ce qui l'avait fait chuter en deuxième ronde où les Ducks ont sauté dessus avec raison, visiblement, ouais. Parce qu'il a toujours bien fait le saut dans la LNH à 19 ans. C'est pas rien. Les gars, on fait un trait sur ce qu'on vient de discuter au niveau de la Ligue américaine. On revient dans la Ligue nationale. Bon, j'en parlais en introduction, mais on se rapproche énormément des séries éliminatoires. Puis je veux parler de la course au Trophée Hart parce que, à mon avis, présentement, cette course-là, elle est très serrée. Il y a plusieurs candidats. C'est une des années où il y a peut-être le plus de candidats. On a Nathan MacKinnon. Bon, on l'a vu hier. Malheureusement, MacKinnon n'a pas... a poursuivi sur sa séquence de 35 matchs à domicile avec au moins un point. Je regardais, il est en route peut-être pour battre le record de concession au niveau des points qui est détenu par Peter Stastny des Nordiques. Ça va très bien pour Nathan MacKinnon. Mais tu as d'autres candidats qui sont très intéressants. Nikita Kucherov en est un. Connor McDavid en est un. David Pastrnak en est un. Et Austin Matthews est dans la liste. Même GF, toi, t'as un autre candidat, on va en reparler plus tard. Austin Matthews, qui lui, bon, au niveau de sa production, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est beaucoup de buts, mais pas nécessairement autant de points que ses autres rivaux dans cette course-là. Alors, je vous pose la question, je veux vous entendre. Votre choix pour le Trophée Hart cette année, ce serait... Guillaume, je te laisse comme... Non, vas-y, GF, parce que toi, tu détonnes. On te laisse lancer ça. Puis après ça, c'est ça. Va champ gauche, puis après ça, nous, on va ramener la conversation un peu.
Je vais y aller champ gauche, mais je sais très bien que la lutte risque de jouer entre trois joueurs à la fin de l'année, Nathan MacKinnon, Connor McDavid, Nikita Kucherov. Mais le trophée Hart, sa définition, c'est le joueur le plus utile à son équipe. Quand on parle d'être le plus utile à son équipe, Quinn Hughes, cette année, défenseur, 81 points en 72 matchs, plus 39, 24 minutes, 45 secondes en moyenne. Et les Canucks seraient où cette saison sans Quinn Hughes? Il a pris cette équipe, l'a élevé au rang d'une puissance de la Ligue nationale. C'est lui, pour moi, le moteur du côté de Vancouver. Oui, ils ont un triangle. Il y a Quinn Hughes, il y a Elias Pettersson, il y a Thatcher Demko devant le filet. Mais si on parle de joueur le plus utile à son équipe, pourquoi Hughes ne pourrait pas être dans la même discussion qu'un MacKinnon? MacKinnon a quand même le gros Mikko Rantanen aussi comme moteur pour l'aider.
Tout le monde en parle. Ben, vas-y, puis je vais poursuivre là-dessus par la suite.
Mon seul point, c'est Nikita Kucherov a Braden Point, Austin Matthews a Mitch Marner, William Nylander, Connor McDavid, il y a l'autre monstre à deux têtes qui est Leon Draisaitl, il y a Zach Hyman. Donc, pourquoi pas y aller d'un défenseur? Mais les défenseurs ont rarement la cote pour le trophée Hart. Même chose pour les gardiens. C'est rare qu'on va voter pour un gardien. Un gardien, je peux comprendre parce que maintenant, ils vont jouer 50 à 60 matchs. Mais à mes yeux, Quinn Hughes devrait faire partie de la discussion pour le gagnant du trophée Hart.
On parlait de MacKinnon, puis effectivement, j'entends de plus en plus son nom parce que sa séquence est impressionnante. Mais MacKinnon, hein, joue toujours bien avec le meilleur défenseur de la planète, selon plusieurs, selon moi, à mon avis. Joue avec Rantanen, qui est probablement le deuxième meilleur droit de la planète. Rajoutez à ça, on a d'autres bons joueurs là, du côté du Colorado, mais ces trois-là, on a souvent dit que Connor McDavid devrait peut-être pas être le gagnant du trophée Hart parce qu'il y avait Leon Draisaitl avec lui. Je regarde la candidature de MacKinnon, puis je peux pas me dire ce joueur-là est plus utile à son équipe qu'un Pastrnak ou celui qui est mon choix, Nikita Kucherov. Parce que Kucherov, présentement, a 43 points de plus que Braden Point, qui est son joueur de centre. Victor Hedman, un point par match, c'est pas mauvais, c'est très bon même, mais c'est pas au niveau, à mon avis, de Cale Makar ou au niveau de Quinn Hughes, comme tu l'as dit. Je veux dire, Hedman, un peu ralentissement. À Tampa Bay, on n'avait pas Andrei Vasilevski en début de saison. Mikhail Sergachev a joué combien de matchs? Il est rendu à 34 matchs cette année. Sa saison est supposée d'être terminée. Steven Stamkos, ben lentement, mais sûrement, il prend de l'âge, il ralentit. Là, on joue avec Brendan Hagel, Nicholas Paul. Cette équipe-là, le Lightning, aurait peut-être dû rater les séries éliminatoires cette année. Et c'est Kucherov qui transporte cette équipe-là sur son dos. Selon la définition de ce trophée-là, moi, Kucherov répond à 100% à cette définition-là. À partir de là, est-ce que c'est le meilleur joueur? J'adore ce que Nathan MacKinnon fait. MacKinnon est peut-être plus polyvalent aussi, à mon avis. Mais je pense que la seule raison pour laquelle Nikita Kucherov ne devrait pas gagner cette... Non, plutôt, n'obtiendra peut-être pas les votes pour gagner ce trophée-là. Ça, c'est peut-être ce qui s'est passé au niveau du match des étoiles. Ça se pourrait un peu que ça influence le vote, là. Mais pour le reste, je vois Kucherov être le choix. Guillaume?
Ben moi, j'adore votre discussion parce qu'on a nommé beaucoup, beaucoup de joueurs, mais on n'a pas encore parlé de David Pastrnak, ouais, des Bruins de Boston. Et c'est un peu le reflet de ce qui se passe dans la Ligue nationale année après année depuis que Pastrnak est un joueur dominant. Son nom est rarement évoqué dans les discussions pour le trophée Hart. Quand on parle des meilleurs joueurs de la Ligue, on l'oublie souvent. Et Jim Montgomery, chaque fois qu'on lui parle de David Pastrnak, est très élogieux à son sujet. Il dit, tu sais, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale qui passe sous le radar. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que ce phénomène-là se passe? Je ne sais pas.
Est-ce que c'est parce qu'il y avait la perfection line qui était tellement une unité bien rodée que Pastrnak passait un peu, il y avait Marchand d'un côté, il y avait Bergeron au centre, que ça avait un peu le même effet que quand McDavid et Draisaitl jouaient ensemble, c'est-à-dire ça leur nuisait, ça, malgré l'efficacité, ça leur nuisait dans leur chance pour gagner le trophée Hart?
On disait peut-être que c'est ça, la somme des trois éléments qui faisait en sorte que Pastrnak produisait tout ça, mais là, on a perdu Patrice Bergeron. Brad Marchand, c'est pas le joueur qui a déjà récolté 100 points en une saison. Tu regardes là, du côté de David Pastrnak, 101 points en 73 matchs, 45 buts. Brad Marchand est à 63 points en 73 matchs. Donc, on revient encore à la définition du joueur le plus utile à son équipe, Pasternak. Quand tu regardes les Bruins au classement, ça fait 2 ans qu'on se dit « Ah, cette équipe-là va piquer du nez. » L'an dernier, saison record. Cette année, encore au sommet. Peut-être, c'est pas impossible qu'il termine encore une fois au premier rang au total, au classement général. Fait que pour moi, David Pasternak doit être parmi les joueurs qu'on va évoquer pour ce trophée-là. Est-ce qu'il va l'être? La compétition est assez féroce. Là. Quand on a des McKinnon, des McDavid, c'est peut-être des noms un peu plus sexy là, pour ce genre de trophée-là, mais David Pasternak, pour moi, c'est le moteur des Bruins de Boston. Puis c'est lui qui transpose la culture année après année. Là, on a un Brad Marchand qui a pris le rôle de capitaine, mais David Pasternak fait partie de ce noyau-là qui fait en sorte que les succès continuent de venir du côté des Bruins.
C'est rare que je vais offrir des compliments à Guillaume, mais je trouve que c'est un discours intelligent de la part de Guillaume. Pasternak, même s'il s'élève au rang des grandes étoiles depuis longtemps dans la Ligue nationale, passe quand même dans l'ombre. C'est impressionnant quand on regarde sa production offensive cette année sans Patrice Bergeron, c'est 101 points. Le deuxième chez les Bruins, c'est Brad Marchand. Après ça, on tombe à Charlie Coy, qui est dans une cinquantaine de points. Puis j'ai tendance à croire que la majorité des gens qui suivent le hockey vont oublier que Pasternak a marqué 61 buts l'an dernier. Une saison de 60 buts, mais son plus grand malheur, c'est qu'Austin Matthews en a eu plus. Austin Matthews joue où? Joue à Toronto. C'est le centre de l'univers. Donc, si Matthews en marque 60 et plus, on n'arrêtera pas d'en parler dans le Canada anglais et un peu partout à travers la Ligue nationale. Et même si Pasternak joue dans un gros marché à Boston, mais il a eu le malheur d'obtenir sa saison de 60 buts au même moment que Matthews en a marqué lui aussi 60. Donc, il a passé un petit peu plus incognito. Il y a peut-être aussi le débat ailier versus centre quand vient le temps de voter pour le joueur le plus utile. Pasternak est un ailier, mais il joue quand même près de 20 minutes par match.
À un moment donné, c'est ça.
Lui aussi, c'est une saison qui est intéressante. Il n'y a pas un joueur qui se détache, mais souvent, la réputation d'un joueur pèse lourd. McKinnon et McDavid ont la réputation d'être les deux meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey et ça va possiblement influencer aussi le vote à la fin de la saison.
Je disais que Kucherov n'est peut-être pas entouré comme d'autres joueurs le sont. J'avoue que présentement, Pasternak joue avec Danton Heinen et Pavel Zaka. C'est une bonne coche en dessous de certains joueurs qui sont candidats, là, dont un, justement, tu en as parlé, Austin Matthews. Son nom revenait dans les discussions parce qu'il a 59 buts présentement. On se demandait s'il atteint le plateau des 70 buts. Est-ce que justement un but vaut deux passes? T'sais, on connaît ça, il y a des poules de hockey, c'est ça, là, un but, c'est deux points. Une passe, c'est un point. À quel point est-ce que d'avoir le compas dans l'œil de la sorte, ça te donne un avantage dans cette course-là? Parce que Matthews, présentement, est le 8e meilleur marqueur de la Ligue. Joue avec des excellents joueurs. J'ai de la misère même à le mettre dans mon top 5, moi, personnellement. Puis comme tu dis, GF, à Toronto, il va probablement terminer top 2.
Ouais, mais c'est difficile. Je comprends ton point qu'un but vaut pratiquement 2 points, là, comme dans certains pôles de hockey. Mais si on part de ce principe-là, on va pratiquement éliminer les défenseurs et le trophée Hart pour le reste du temps. C'est excessivement rare de voir un défenseur finir une saison avec 30 buts et plus. Sinon, si on part de ce principe-là, Quinn Hughes ne devrait pas circuler parmi les candidats. Mais c'est vrai que les buts attirent l'attention. Sauf que si on reprend ce même concept-là, Pasternak est à 45 en ce moment. Il a de fortes chances de finir la saison avec 50. Donc, pourquoi pas aussi Pasternak dans la discussion? C'est une bonne question, mais c'est certain. Si jamais Austin Matthews devait atteindre le 70, on n'a pas vu un marqueur de 70 buts depuis fort longtemps. Ça capte l'imaginaire.
T'es mou, c'est l'année, Tommy?
C'est possible. C'est l'année Mogilny, je crois, au cours de la même saison.
Ah, t'as raison. Ouais. 93, si je ne me trompe pas.
Le problème avec Austin Matthews, c'est que j'avais une discussion avec un grand sage là, qui est ici présent dans cette conversation récemment. Puis il me disait à Toronto, on ne sait même pas si Austin Matthews est le joueur le plus utile. Mm-hmm. On a William Nylander qui a un point de plus là, qu'Austin Matthews en ce moment. Fait que oui, les buts, mais William Nylander, En tout cas, d'un œil extérieur, je ne peux pas dire que j'ai regardé tous les matchs des Maple Leafs cette année, mais semble avoir été le joueur le plus constant de cette équipe-là depuis le début de la saison. Fait que, si on se demande si tu es le meilleur joueur de ton équipe, oui, OK, tu as 70 buts, mais il faut faire la part des choses aussi. Fait que je pense que dans le cas de Matthews, le fait que Nylander soit là, ça vient un peu brouiller les cartes.
Et en terminant...
Petite recherche, Teemu Selänne, 76 buts, 92-93. Alexander Mogilny, 76 buts, 92-93. Et ensuite, Brett Hull, trois fois, 70, 86 et 72. Donc, c'est certain que 70, ça attirait l'attention, mais ça va être quand même difficile pour lui là, de se rendre à 70.
On va dire qu'il y a un trophée pour ce que Matthews fait. C'est le trophée Maurice-Richard.
Ouais, Maurice-Richard.
C'est ça, exactement. En terminant cette discussion-là, parce qu'on n'en a pas encore parlé, Connor McDavid, 119 points présentement. Il a deux matchs de plus à jouer que Nathan MacKinnon, qui a 123 points. Avec le début de saison que les Oilers ont eu et comment tout ça a viré à l'arrivée de Chris Knobloch derrière le banc, si Connor McDavid termine premier marqueur de la Ligue, est-ce que soudainement la discussion change? Parce que c'est lui qui a pris cette équipe-là et qui l'a amené sur ses épaules. Zach Hyman est rendu avec 51 buts, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas dire grâce à Connor McDavid, parce que c'est pas vrai, là, mais en partie grâce au fait qu'il fait la paire parfaite avec McDavid. Là.
Ben, je pense pas que la conversation va changer parce que McDavid fait déjà partie de la conversation. Est-ce que McDavid va terminer au sommet des pointeurs? C'est possible. Il a le talent pour sortir deux matchs de 4 points ou 5 points par rencontre, donc on ne peut jamais l'écarter. Mais McDavid, cette saison, avec Knobloch, a peut-être pris certaines responsabilités autres que juste obtenir des buts, des passes. Il y a énormément de passes cette saison. De voir Hyman aussi, qui devient un marqueur de 50 buts, il y a quand même... McDavid a son mot à dire. Là. Hyman les a marqués, les 50, mais il y avait quand même le joueur de centre pour lui permettre d'atteindre ce chiffre.
Mais c'est un peu la définition de ce trophée-là. C'est-à-dire, tu rends tes coéquipiers autour de toi meilleurs, joueurs le plus utile, c'est ça.
Mais peut-être que McDavid a compris aussi, l'an dernier, c'était une saison de 150 points. Je continue de croire que si un joueur a le potentiel d'atteindre 160 points, là, 2 points par rencontre, c'est McDavid qui pourrait le faire un jour. On n'aurait jamais cru ça possible, là, des statistiques à la Gretzky ou à la Lemieux, mais McDavid a le talent pour y arriver. Mais il s'est peut-être dit cette saison, je vais sacrifier un petit peu d'offensive pour être un centre encore plus complet, rentre dans le moule de ce que Knobloch lui demande. Puis en série, ce qui va permettre à McDavid de peut-être gagner un jour, c'est pas nécessairement d'avoir 40 points en 20 matchs en série, mais ça va être d'aussi bon, d'être aussi bon défensivement.
Effectivement. GF, tu nous quittes, on te laisse partir en voyage, on n'en a pas
en mission,
dit, en mission, parce que présentement, là, on ne te parle pas de ton salon, où, on te parle à très distance, tu es sur la route, on ne révélera pas où, les gens vont pouvoir venir lire le tout dans les prochains jours sur lnh.com, donc merci d'avoir été sur le balado aujourd'hui.
Un grand plaisir. Puis je vois le moustachu sourire. C'est difficile de garder ma concentration. Bonne fin de balado. À bientôt, messieurs.
Je m'en allais te souhaiter une bonne journée à Quinnipiac, mais...
Ce n'est pas Quinnipiac.
On y revient.
Vous allez obtenir des indices dans les prochains jours. Là, il y a quelques textes qui seront publiés sur lnh.com.
Bon, on peut te suivre sur ton Instagram. Tu vas mettre des photos de tout ça, là, j'imagine. Là.
OK, bonsoir.
Salut, Jeff.
Salut.
Guillaume, c'est ce vendredi commencent les séries éliminatoires dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Chose est certaine, les Remparts de Québec ne seront pas des nouveaux champions, ne défendront pas leur titre. On a vécu ce que la majorité des équipes juniors vivent, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Donc, il y aura un nouveau champion. À quelle équipe, quelles équipes doit-on surveiller là, lorsqu'on regarde le plateau de 16 formations qui vont être de la grande danse du printemps?
Bien évidemment, il faut regarder au haut du classement. C'est souvent de cette manière-là. Oui, c'est ça. C'est souvent de cette façon-là que ça
j'aime
se produit.
Comment,
surtout
j'aime
dans...
comment tu dis subtilement que ma question est niaiseuse. J'aime ça. C'est subtil.
Non, mais
tu
sais. Non, mais comparativement à la Ligue nationale, la voie est quand même ouverte pour plusieurs équipes, tandis que dans le junior majeur, ben, c'est souvent les équipes qui connaissent du succès en saison qui se rendent jusqu'au bout. L'année dernière, les Remparts ont gagné le championnat de la saison régulière, ont gagné aussi le trophée Gilles Courteau, la Coupe du Président. Donc, Cette année, c'est le Drakkar de Bécomo qui a terminé au premier rang avec 109 points dans la saison. Il y a seulement deux autres équipes qui ont atteint la marque des 100 points. Les Voltigeurs de Drummondville avec 102 et les Huskies de Rouyn-Noranda avec 100. Donc, c'est des équipes de tête. C'est des équipes qu'il faut surveiller dans ces séries-là. Il y en a certaines autres peut-être qui pourraient se glisser dans cette course-là. Halifax, Victoriaville font partie aussi du top 5. Mais l'année dernière, on avait un carré d'as quand même assez relevé. On se disait, c'est dur de déterminer laquelle des quatre équipes va se rendre jusqu'au bout. Cette année, le Drakkar, avec la façon dont s'est déroulée cette saison-là, il n'y a pas beaucoup de doutes par rapport à cette équipe. Est-ce qu'ils vont être capables de répondre aux attentes en série? Bien là, ça, c'est la question qui reste en suspens. Et les Voltigeurs de Drummondville, c'est une équipe qui est identifiée comme une des puissances de cette ligue-là depuis le début de la saison. On répond aux attentes. C'est aussi une équipe à considérer. Donc, moi, je regarderais vraiment dans le top 2 de ce classement-là pour me projeter dans l'avenir.
Là, les Voltigeurs, mauvaise nouvelle. Là, le défenseur Maverick Lamoureux, premier choix de première ronde des Coyotes de l'Arizona qui, saison terminée, mauvaise nouvelle pour lui. Puis vraiment, ça va. Est-ce que ça vient un peu plomber les chances des Voltigeurs? Est-ce que soudainement, on perd trop d'éléments pour demeurer compétitif?
Je n'irai pas jusque-là dire que ça va plomber les chances parce que justement, je parlais avec Sylvain Favreau, l'entraîneur des Voltigeurs récemment, puis il me disait. Tu sais, Maverick Lamoureux a joué 39 matchs dans cette saison-là parce que, il y a eu le championnat mondial junior, il a été victime d'une mononucléose au mois de février, janvier-février. Donc, pour moi, c'est une équipe qui est habituée à jouer sans Maverick Lamoureux. C'est une équipe qui a aussi beaucoup de profondeur en défensive. T'sais, on a fait l'acquisition de Zevolod Komarov qui a gagné la Coupe l'année dernière avec les Remparts de Québec, un espoir des Sabres de Buffalo. On a Mikael Diotte qui vient de s'entendre avec les Devils du New Jersey. Donc, le cœur de la défensive est quand même présent. C'est certain qu'avec un Maverick Lamoureux qui joue à la hauteur de ce qu'il a démontré au championnat mondial junior.
Puis qui amène une dimension que peu de joueurs peuvent amener dans la GMQ aussi, là, quoi, 6 pieds 8 là, environ. Là.
Ouais, exact. C'est un 6 pieds 7, 6 pieds 8, 215 environ. Livres. Là. C'est un gros bonhomme. Donc, c'est une lourde perte pour les Voltigeurs, mais je pense qu'avec la profondeur qu'ils ont puis l'expérience qu'ils ont acquis cette saison sans Maverick Lamoureux, on ne peut pas dire que bon ça vient plomber leur chance, mais un défenseur de cette trempe-là, on a vu ce qu'il est capable de faire au championnat mondial junior, si tu transposes ça dans les séries de la GMQ, ça aurait été un des joueurs les plus dominants là, de ce printemps-là. Donc, une déception pour les amateurs de ne pas pouvoir le voir justement dans ce contexte-là. Et aussi pour Maverick Lamoureux qui est toujours aux prises avec des petits bobos qui lui nuisent. Là, l'année dernière, en début de saison, ça avait été le cas aussi. Fait que c'est certain que c'est décevant de son côté. Là.
Bon, à défaut d'avoir Maverick Lamoureux, il y a d'autres espoirs à surveiller. Il y en a quelques-uns, lesquels tu nous suggères de suivre. Moi, en tout cas, c'est sûr que j'ai hâte de voir ce que Jordan Dumais va être capable de faire à Halifax. Bon, retour de suspension. Saison a été blessée, a été opérée avec du côté de Columbus. C'est certainement pas une saison qu'on attendait à la hauteur des attentes pour celui qui avait été champion marqueur de la Ligue là, l'année dernière.
Oui, puis en plus, cette année, ben là, ça va être de voir dans quel état de santé il va revenir au jeu. Là, puis est-ce qu'il va être capable de reprendre le rythme rapidement après avoir manqué? Je pense qu'il n'a pas joué de match là, depuis le Mondial Junior. Mm-hmm. Ça commence à faire un bout, donc d'arriver en série, ça va être un défi pour lui. Mais tu regardes ça dans le Mathieu Katafor et Marcus Vidicek qui ont pris la relève offensivement du côté des Mooseheads. Ont terminé troisième et quatrième respectivement là, au classement des pointeurs avec 90 points, 88 points pour Vidicek. C'est l'attaque des Mooseheads ne repose pas uniquement sur Jordan Dumais, mais c'est certain que s'il repart la machine au même niveau qu'il nous a habitués, avec Katafor et Vidicek qui fonctionnent à plein régime aussi, ben ça peut être aussi. Les Mooseheads peuvent causer la surprise. Je vais attirer aussi l'attention sur un Alexandre Blais, qui est un espoir pour le repêchage de 2024. qui, mine de rien, a terminé au sixième rang des pointeurs avec 84 points, 24 buts cette saison. Ça a été l'espoir admissible au prochain repêchage le plus productif là, dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Il joue pour l'Océanique, qui va faire face aux Eagles du Cap-Breton au premier tour. Donc, pour lui, c'est une bonne saison au niveau de la production. S'il peut prolonger son printemps, ben, il peut continuer de gagner des points aux yeux des recruteurs de la Ligue d'hockey, de la Ligue nationale. Donc, pour lui, c'est un gros printemps qui s'en vient.
Si je te demandais si tu avais une équipe peut-être sous-estimée à surveiller, une équipe qui pourrait peut-être causer la surprise?
Ben écoute, je me suis entretenu avec Maxime Mancé des Saguenay-Chicoutimi pour le carnet qui va être publié vendredi sur notre site. C'est une équipe qui a terminé la saison avec une fiche de 16-3-1 à ses 20 derniers matchs. Donc, c'est une jeune équipe qui, on dirait qu'ils ont tourné le coin là, à partir du mois de février avec une séquence de 10 victoires. Puis là, il arrive en série en pleine confiance avec l'expérience que le jeune groupe, parce que c'est une jeune équipe, le jeune groupe a gagné en expérience. Puis il arrive en série, affronte les Wildcats de Moncton au premier tour qui ont seulement 5 points de plus en saison régulière que les Saguenayens. Donc, oui, ils sont négligés si on regarde par rapport au classement, mais je pense que c'est une jeune équipe qui pourrait nous surprendre dans les prochaines semaines. Ça reste à voir, tu sais, est-ce qu'on va être capable de transposer l'effet d'entraînement de la fin de saison en séries éliminatoires, mm-hmm. ben ça va être le défi, mais tu regardes ça froidement, puis tu peux voir les Saguenay franchir quelques rondes dans ces séries-là.
Guillaume, on a parlé, on a reçu en entrevue Jean-François Grégoire, on va vous faire écouter ça, chers auditeurs, dans quelques secondes. Bon, parle-moi un peu de cette saison-là, du Drakkar de Baie-Comeau. On a fait des belles acquisitions, des acquisitions même inattendues à un certain point, là, dans le cas des frères Boilard. C'est l'équipe, je ne veux pas dire l'équipe à battre, là, mais c'est vraiment, surtout avec ce qui est arrivé avec Drummondville, on semble commencer avec vraiment un bon pied d'avance, oui, sur les adversaires là, en vue des séries.
Ouais, le Drakkar qui a dominé cette saison-là, là, du début à la fin, ça a été une domination constante, une fiche de 53 victoires, 12 défaites et 3 défaites en prolongation. Donc, c'est une équipe qui est habituée de gagner. C'est une équipe pour qui tout est tombé en place cette année. Tu parlais de l'arrivée des frères Boilard, là, Raoul, qui est admissible au repêchage cette année, et son frère aîné, Jules. Ça a amené un élément de profondeur à cette équipe-là. Puis il y a aussi des acquisitions qui ont été faites, soit dans la saison morte, si on pense à Justin Gill, qui a terminé au deuxième rang des pointeurs, soit pendant la saison, des acquisitions qui se sont bien intégrées au noyau là, du Drakkar. Donc, pour eux, c'est un sans-faute en saison régulière. La question, c'est de savoir est-ce qu'on a vécu assez d'adversité dans les dernières années et cette année pour justement bien réagir dans des situations peut-être qui peuvent survenir pendant un long printemps. Là. Tu sais, des fois, il y a un petit peu plus de pression, il y a un petit peu plus d'attente. Ça va être de voir si cette équipe-là a assez d'expérience pour faire face à ce qui l'attend en série, mais... En ce qui a trait à la saison, il y a très peu de points négatifs à soulever là, du côté de Baie-Comeau.
Alors, voici cette entrevue avec l'entraîneur-chef Jean-François Grégoire. Alors, on le reçoit avec nous. Il est l'entraîneur du Drakkar de Baie-Comeau, champion de la saison de la LHJMQ. Jean-François, le buzz doit se faire sentir de plus en plus là, à Baie-Comeau. On sait que ce n'est pas une grande municipalité, Baie-Comeau, ce n'est pas une grande ville, mais on sait à quel point les partisans sont fervents là-bas. Ces séries-là, on doit vraiment avoir hâte que tout s'amorce.
Oui, effectivement. Mais ce qui est plaisant cette année, c'est que cet engouement-là a été du jour 1 là, à partir du camp d'entraînement. Puis ça s'est transposé dans la saison. Comme j'avais dit un moment donné dans une entrevue, seulement 3 matchs cette année ont été en bas de 2000 personnes. Puis c'était dans le temps de la chasse. C'est une période qui est vraiment ici très importante. Puis c'est des matchs de semaine. Donc, c'est ça qui est le buzz, l'engouement est là. Et c'est fun pour les joueurs parce que souvent, si ça se transpose seulement qu'en série, ça peut être un petit peu une distraction. Mais les gars, ils ont vécu ça toute l'année. Fait qu'on devrait bien le gérer. Là.
Une saison comme ça, Jean-François, est-ce que tu la voyais dans tes cartons? Est-ce que tu t'attendais à ce que ton équipe soit aussi dominante que ça puis soit parmi les meilleures au Canada dès cette année?
Non. On savait qu'on avait progressé, qu'on progressait en tant qu'équipe, puis On avait aussi des joueurs, on avait ajouté des joueurs pour justement avoir ce contexte-là de plus de victoires. T'sais, quand j'ai fait la transaction avec Justin Gill, c'était justement ça. L'objectif, c'était vraiment de d'amener un gars qui avait gagné avec Sherbrooke, qui avait vécu ces saisons-là. Puis moi, ce que je mentionnais, c'est que c'était le temps d'apprendre à gagner. T'sais. Fait qu'on a fait plus que ça. Mais c'est ça, c'est. Je pense que c'est un ensemble de plein de choses, mais effectivement, de dire qu'on. Ben, je pense pas qu'on peut dire qu'on sait qu'une équipe va finir en première position. Tu sais, tu sais que tu es bien positionné, mais c'est au-delà de nos attentes.
Comment tout est tombé en place? Tu parlais d'un gars comme Justin Gill. Ça a bien fonctionné. Deuxième meilleur pointeur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les frères Boislard, ça a ajouté un élément de profondeur à ton équipe. On s'est parlé plus tôt dans la saison de Mathias Melowski, son apport offensif. Je veux dire, tout a semblé fonctionner de ton côté. Comment tu as vu ça se dessiner là, au fur et à mesure de la saison?
Je pense que c'est le jour 1, comme je disais tantôt, là, un peu comme avec les fans. Je pense que c'est le jour 1 au niveau de l'entraînement. Le niveau d'intensité, le niveau de sérieux du retour des joueurs, de nos anciens. Pas surpris parce que je sais que c'est des gars engagés, mais je trouve qu'ils ont mis la barre haute assez rapidement. C'est souvent un camp d'entraînement. Les recrues, puis les vétérans viennent un peu, puis ils se préparent. Mais là, ils ont vraiment, vraiment donné le tempo très, très tôt dans le camp d'entraînement. Donc là, j'ai vu que les gars étaient affamés. C'est un groupe que. La base du groupe a grandi ensemble, tu sais, Gagnon, La Voix du Fort, Chouinard, on avait Charlot au début de l'année. Ça, c'est ces gars-là qui ont passé pendant l'année COVID, qui ont grandi ensemble. Tu sais, on a vécu des années où on n'avait pas la même profondeur, mais les gars étaient engagés. Puis, tu sais, on a eu beaucoup de matchs contre des équipes, tu sais, comme Québec. Je veux pas, tu joues 2 ans contre les Remparts de Québec, 2 années, monsieur, sont dans l'autre classement.
C'était plus facile cette année.
Ben, c'est différent, ils n'étaient pas en même place dans le cycle, mais tu sais, c'est certain que d'être tout le temps à ton maximum pour être dans les matchs, pour puis performer. Après ça, au niveau des séries, bon, on a perdu en 7 contre Moncton, mais cette série-là était vraiment serrée, ça s'est relancé d'un côté de l'autre. Le but qui a été refusé en prolongation, je ne sais pas, ça peut être aussi un autre élément qui a fait en sorte que les gars sont arrivés au camp. Affamés, tu sais. Fait qu'il y a tout ce contexte-là. Puis après ça, parce que ça, c'est un peu l'état d'esprit, là. Fait que si on a transposé ça dans l'année, puis on a eu quand même des joueurs comme tantôt tu as mentionné, Mathias Melowski, c'est un joueur qui était plus ou moins connu. Nous, on savait l'impact qu'il avait avec nous, mais il y a vraiment une bonne saison, les 50 buts de Poirier. Gil qui a fini 2e scoreur de la Ligue. Après ça, tu as un gars comme Julien Palier qui est signé comme Jean-Libre, qui ramasse 28 buts. Il y a tous ces gars-là ils se sont bien intégrés au groupe, puis ils ont contribué là, en jouant du bon hockey. Fait qu'il y a tous ces éléments-là, profondeur et tout l'ensemble des choses que je viens de parler qui peut expliquer un petit peu le fait qu'on a été plus vite que prévu pour certains là, au niveau d'avoir eu la première position toute l'année.
Jean-François t'en parlait, mais justement, cet ensemble d'expériences, d'adversité et de revers que vous avez vécu dans les dernières années va être une dose d'expérience justement précieuse en séries éliminatoires?
Je pense que oui. Parce que l'année passée, comme je disais, souvent le processus qui est idéal, tu finis premier. Après ça, tu arrives dans les séries, puis tu touches à ça et tu te rends loin. T'sais, c'est pas quelque chose que nous, on a connu. T'sais, on n'a pas fait de demi-finale l'année passée. Mais d'avoir à vivre une série serrée, où ce qui était à 7, puis que tu perdais 0-2 dans un match, tu revenais et vice-versa. C'est un bagage qu'on est allé chercher. Donc, on peut transposer ça. Encore une fois, je pense qu'on a tout approuvé quand même, cette mentalité-là. On prend rien pour acquis. Puis l'autre chose, souvent on questionnait un peu, OK, bon, le classement des accords par rapport aux joueurs de la Ligue nationale, repêché en première ronde, deuxième ronde, ces choses-là, on n'en a pas. Moi, je pense qu'une des choses qui est intéressante pour nous, c'est qu'on a des joueurs qui ont encore tout approuvé du côté individuel, on a tout approuvé encore côté équipe. Puis Je pense pas qu'il y a un joueur dans l'alignement qui a hâte que, ou qui se dit bon, ben, si un joueur de hockey ne commence pas les séries juniors en se disant ben, j'ai hâte d'aller dans la Ligue américaine. Mm-hmm. Sauf que quand la série est serrée, puis que finalement la game est sur la ligne, ben, quand tu as un plan, que tu as un plan après qui va poursuivre ta saison, ben, ça peut faire en sorte que c'est moins en état d'urgence, Fait que, tu sais, on n'aura pas cette traction-là de joueurs qui veulent s'en aller dans la Ligue américaine le plus rapidement possible. Fait que ça peut être un atout pour nous aussi.
Vous affrontez les Islanders de Charlottetown au premier tour. Comment est-ce que ça change quelque chose dans votre préparation d'affronter une équipe des Maritimes? C'est pas des duels que vous avez souvent en cours de saison.
C'est du 2-3-2 aussi, là?
Ouais, exact. Le format 2-3-2, comment est-ce que tu vois l'ensemble là, de cette série-là?
C'est sûr que pour nous, c'est vraiment important de t'sais, oui, on t'sais, présentement, t'sais, bon, on vient de finir notre pratique. Toute la semaine a été évidemment sur les tendances de l'adversaire, t'sais, comme eux vont faire. Mais t'sais, moi, ce que je trouve c'est important aux joueurs, ce qu'on leur rappelle, c'est que où on a fini dans le classement, ben, c'est parce qu'on a fait des bonnes choses. T'sais. Fait qu'il faut vraiment se concentrer à continuer à faire qu'est-ce qui est payant pour nous. Puis après ça, au niveau du 2-3-2, sur la route présentement, cette saison, on a eu quand même une bonne fiche. Fait que, pour l'instant, c'est des éléments qui, si on les gère bien, on va faire en sorte que ce ne soit pas trop une distraction puis trop quelque chose de nouveau là, pour les joueurs, parce que les habitudes qu'on travaille, créer les automatismes, on travaille vraiment beaucoup avec ça. Mais il faut garder le contrôle de ces choses-là et éviter les distractions. Mais il faut vraiment se concentrer sur nous, là, selon moi, là, pour l'instant. Là.
Tu parlais de joueurs qui ont tout approuvé. Justin Poirier en est un qui, en début de saison, avait justement tout approuvé. On parlait de lui comme un espoir de premier plan pour le repêchage, mais on le sait, sa petite taille et tout ça, ça peut en effrayer quelques-uns. Finalement, 51 buts, premier joueur à faire ça depuis Sidney Crosby dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Comment t'as évalué sa saison à lui?
Justin, il a une bonne saison, il a une bonne progression depuis 2 ans, puis tu sais, on travaille beaucoup avec lui. C'est un marqueur naturel, puis ça, quand tu as ça, faut pas que tu arrêtes de t'en servir. C'est son élément premier. Tu veux qu'un joueur continue à utiliser ses forces, mais on amène dans son jeu des éléments pour justement montrer que c'est pas juste ça. Fait que on essaie de faire en sorte que les aspects qui sont peut-être vus plus négatifs par rapport à sa grandeur, ces choses-là, ben, fasse en sorte que, un, Justin Poirier ne joue pas petit. C'est déjà là, il démontre. Il n'est pas unidimensionnel. Oui, c'est un joueur à la base qui a vraiment des caractéristiques offensives, mais c'est un gars qui se replie, puis c'est un gars qui vient aider ses coéquipiers dans son territoire. Puis, nous, c'est l'élément de notre match. On ne donne pas beaucoup de buts parce que on demande le coaching staff, l'engagement de tout le monde quand on n'a pas la rondelle, tu sais, parce que je crois beaucoup que c'est ce qui fait. Tu sais, l'offensive peut te faire gagner des beaux matchs le vendredi soir, des matchs excitants, mais pour ce qui est des championnats, tu sais, c'est vraiment la défensive. Puis ça te prend l'offensive aussi, mais à la base, il faut que tu défendes comme il faut. Fait que, tu sais, Justin, il a grandi là-dedans pendant 2 ans, sans justement délaisser son côté qui est franc-tireur. Tu sais, fait que je pense qu'il peut en bénéficier. Puis l'autre chose, c'est que, un peu comme tout le monde, ben, dans les séries, les statistiques et les duels que tu vas faire, ça compte plus. T'sais. Les dépisteurs, ce qu'ils avaient à voir, l'ont vu. Puis présentement, ben, ils vont dire, si on se rend loin, ils vont dire, ben, crime, t'sais, une ronde, deux rondes, plus qu'on se rend loin, tout le monde va en bénéficier parce qu'ils vont justement dire, ah, il casse de jouer du hockey de printemps, puis toutes ces choses-là. Donc, c'est un élément qui est bon aussi pour tout le monde.
Mais c'est pas un peu injuste de voir qu'il est classé 6 boxeurs alors que t'es le premier à atteindre 50 buts depuis Crosby à l'âge de 17 ans?
Là. Non, honnêtement, je peux pas parler d'injustice parce que la Ligue nationale, c'est la Ligue nationale, ils ont les critères. Exactement, tu viens de dire, c'est un autre game. C'est le junior puis le pro, c'est vraiment totalement différent. Moi, je reste confiant que Justin va avoir l'opportunité de se faire valoir parce que pas mal convaincu, quelqu'un va l'appeler au mois de juin. Puis après ça, ben, ça sera à lui de démontrer que ce qu'il a fait junior, ben, il peut apporter beaucoup de ses éléments à lui dans l'hockey professionnel. Parce que l'hockey professionnel, ça ne joue plus de la même façon que là, plusieurs années. Mais tu sais, on parle de deux choses, tu sais, qui sont différentes. Fait que les critères, ceux qui l'observent, c'est pas les mêmes critères. Fait que, tu sais, je peux pas parler d'injustice, puis parce que c'est ça, ils ont pas, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes critères.
Comment vous avez vécu ça, cette, je vais l'appeler la course vers le 50e but, tu sais, il semblait avoir quand même un buzz autour de ça à chaque match qui se rapprochait, puis la réaction de ses coéquipiers aussi en disait beaucoup, là, quand il a finalement marqué. C'était comment dans le vestiaire? Tout le monde était au courant, tu sais, je veux dire, ouais. Comment vous avez vécu ça?
Ça a été différent pour nous d'un contexte de saison où c'était déjà réglé pour nous en tant qu'équipe, là, notre classement. Habituellement, on prend toujours le côté évidemment collectif, mais là, on avait plus, on avait comme une raison de pouvoir participer à ça avec Justin, parce qu'on pouvait faire en sorte d'être plus dans l'individualisme. Parce que veux pas, tu sais, des fois, un joueur, au lieu de faire un tir, ben, il cherchait pour faire la passe. Puis, tu sais, comme coach, je vais dire, ben là, Colin, shoot la puck, tu sais, parce que c'est une occasion qu'on vient de passer à côté de l'équipe. Mais, tu sais, quand on faisait ça, je comprenais un petit peu pourquoi que les joueurs étaient plus généreux. Puis, fait que c'est ça, tu sais, c'est un petit peu ce contexte-là qui nous a permis de le vivre avec lui. Moi-même, j'en laissais passer. Puis, même au 49e, tu sais, quand c'était un filet désert, tu sais, ben, il restait 4 minutes que. Fait que, habituellement, c'est pas toujours Justin qui a été sur la glace, mais là, on l'a forcé un peu. C'est une opportunité pour lui. Là, c'est un peu la façon qu'on peut le faire. Puis la même chose, à Sherbrooke, c'était 3-0, il restait 2 minutes. Je n'étais pas obligé d'y aller avec Justin sur la glace à l'avantage numérique, mais il m'a vraiment laissé sur le banc avec une opportunité pour lui. Là, fait que c'était un petit peu les différences, la façon qu'on a géré les choses à la fin pour lui permettre de vivre ça. C'est quand même quelque chose de spécial. Puis on a été chanceux en plus, c'est que le match contre Sherbrooke ici, il y avait une cérémonie pour un petit vidéo pour Justin, puis Sidney Crosby avec la classe qu'on entend dire qu'on lui connaît. Il a envoyé un message à Justin, donc c'était vraiment spécial tout ça.
Jean-François Grégoire, merci d'avoir été sur le balado aujourd'hui.
Plaisir.
Ça commence vendredi, dans votre cas, à domicile au Centre Henri-Léonard, mais ça commence pour toutes les équipes de la LHGMQ, donc on va suivre ça de très près d'ici dans les prochaines semaines et jusqu'à la Coupe, le Trophée Gilles Courteau, Coupe Memorial. Ouais, on vous souhaite d'aller le plus loin possible en série.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Ouais.
Bye.
Alors voilà, c'était l'entrevue avec Jean-François Grégoire, le pilote du Drakkar de Baie-Comeau. Et c'est ainsi que prend fin le balado cette semaine. Guillaume, merci d'avoir été là.
Merci à toi, Nick.
Merci à Jean-François Chaumont qui était là aussi plus tôt dans l'émission. On en parlait un peu plus tôt, Guillaume, mais les gens peuvent lire tes textes, tout ce qui s'en vient d'ici à la fin de la saison sur les Canadiens et sur quelques jeunes qui, justement, sont en... Ben, justement, je pense que tu vas nous préparer un texte avec Justin Poirier, là, avec ouais. Dont on vient de parler. Vous pouvez trouver tout ça sur le site de LNH.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. LNH sur Facebook, LNH, barre de soulignement FR sur... X sur Instagram, sur Threads, donc on est un peu partout. N'hésitez pas à nous suivre et abonnez-vous, suivez-nous sur votre plateforme de diffusion préférée pour être certain de ne jamais rater le moindre balado. Encore merci Guillaume et GF même on pourrait dire, GF à la 2 dans ce cas-ci. Merci d'avoir été à l'écoute, chers auditeurs, et on se reparle très bientôt.